Bonjour, nous sommes le lundi 6 novembre, vous écoutez Radio Campus Paris, les 14h, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour, c'est la saison 2 de La Relève et comme l'an dernier, mais pas vraiment de la même façon, nous vous proposons tous les 15 jours de découvrir pendant 30 minutes les nouveaux talents et les nouvelles idées. Aujourd'hui, nous allons vous parler de rentrée littéraire, de premier roman et même de permaculture. Bonjour Paul-Henri Bizon, ça fait la troisième fois que je dis bonjour aujourd'hui, je suis très poli, ça c'est début novembre, ça me fait toujours ça. Donc bonjour Paul-Henri Bizon,
bonjour,
vous êtes
Christophe.
L'auteur de La Louve, un roman paru fin août chez Gallimard. On s'était parlé cet été pour Radio Camping, vous étiez loin de Paris et votre roman n'était pas encore sur les tables des libraires. Comment ça va depuis ?
Ça va très bien, le roman est sorti le 31 août et je suis très content de l'accueil qui lui est fait.
C'est quoi le premier plaisir, c'est de voir l'objet matérialisé ?
Oui, le premier plaisir, c'est de le voir, effectivement, parce que c'est très long, quoi. C'est 2 ans d'écriture, après presque 1 an d'attente, et puis à un moment, on le voit sur la table des librairies. Les libraires nous en parlent, les gens peuvent le lire, donc c'est très plaisant de pouvoir échanger, justement, au sujet du roman.
Et qu'est-ce qu'on ressent plus spécifiquement ? C'est de la joie, une délivrance, une angoisse parce que il n'a pas été compris, il n'a pas été assez lu.
C'est un mélange de tout ça, ouais. C'est vrai qu'on a envie de le défendre, on a envie d'insister, de dire aux gens mais relisez bien, relisez mieux, relisez encore. Et en fait, il faut réussir à se détacher de tout ça, je crois.
Alors, on va parler de La Louve après et on va parler du livre plus profondément, mais on va continuer de parler de vous. Comment elle est venue cette envie d'écrire ? Elle vient d'où ? Elle est lointaine ?
Elle est très lointaine, parce que depuis que je suis gosse, je n'arrête pas d'écrire. Donc, mais ça prend toutes les formes. Finalement, c'est l'envie de roman qui est arrivée un peu sur le tard. C'est une forme assez contrainte, le roman. Donc j'en avais pas très très envie, donc j'avais écrit un livret d'opéra pour les Bouffes du Nord par exemple sur Bacon, j'écrivais beaucoup de livres, j'avais plutôt une écriture proche de la poésie, c'était plutôt ça qui m'intéressait. Et j'avais cette histoire que je portais en moi qui était l'histoire de deux frères que je voulais développer et voilà,
enfin,
ça c'est
trois.
Alors voilà, ils sont trois et après plus que deux, mais et j'avais envie de l'écrire et puis ça s'est matérialisé sous la forme d'un roman, voilà. Finalement, la forme est venue s'imposer à moi.
Vous savez ce qui a déclenché le passage à l'acte ?
Non, je me l'explique pas vraiment.
Quel mobile vous a poussé à passer à l'acte ? Les romanciers sont des criminels, tout le monde le sait.
Exactement. Non, mais c'était une coïncidence parce que je trouvais que l'air du temps portait ça. Je m'intéressais à l'agriculture. Moi, j'arrivais à presque 40 ans et ça faisait 20 ans que je vivais à Paris. Et je commençais à regarder mon empreinte, en fait, de l'endroit d'où je venais. C'était la campagne. Comment elle avait changé, comment moi-même j'avais changé. Qu'est-ce que ça disait finalement de la France, de ma génération, voilà. Et c'était tous ces liens-là que je voulais voir. En même temps, à Paris, il y avait beaucoup de projets qui naissaient. Là, je pense par exemple à la Jeune Rue ou des choses comme ça, qui liaient l'agriculture, la gastronomie. Voilà. Moi, j'étais au milieu de tout ça. Et donc, j'ai senti que c'était le bon moment pour écrire cette histoire.
Vous étiez un lecteur de romans, on ne va pas appeler ça des romans agricoles, parce que ça serait un peu péjoratif, en tout cas de romans qui se passent dans ce cadre-là, parce qu'il y a un petit renouveau depuis quelques années, je pense à Jean-Baptiste Delamo qui a eu un certain succès.
Bien sûr,
avec
ouais.
Son livre dont j'ai oublié le titre.
C'est Règne animal.
Oui, c'est ça, Règne animal l'an dernier.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez, comme des signaux faibles, comme on dit quand on fait de la veille ?
Pas spécialement, effectivement, c'est vrai que je le remarque aussi. Il y a même eu le film d'Hubert Charvel qui s'appelle Petit Paysan.
Ouais, Le Paysan a fait de retour au cinéma depuis quelques années. Il y a
Exactement.
Eu même le film avant avec le. Alors pareil, ma très bonne mémoire va me jouer des tours, mais le film avec Mathias Schoenaert, Carla, qui est une autre agriculture où les bêtes se piquent et lui se pique aux stéroïdes pour aller faire des
Oui, oui, c'est ça. Oui. Donc, il y a effectivement ce rapport.
Il y a eu un retour. On ne sait pas très bien d'où ils vivent.
On ne sait pas très bien. Il y a eu le film de Clapiche aussi sur les frères et la vigne. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça a toujours
c'est
fait partie de mon
imaginaire. C'est peut-être parce qu'on vit plus en plus dans un monde abstrait.
Oui, peut-être qu'on est de plus en plus hors sol. Donc, peut-être qu'on a ce besoin de se reconnecter à la nature et à la campagne. Mais...
Vous disiez, ça fait partie de mon imaginaire. Je vous ai coupé la parole. Et ça m'intéresse plus d'entendre parler de votre imaginaire que mes remarques à moi.
Oui, mon imaginaire. Non, mais par exemple, je pense à des romanciers comme André Chanson qui, même, par exemple, même ce roman de Bruce Chatwin qui s'appelle Les Jumeaux de Black Hill. Donc, il y a quelque chose de très, qui a toujours été traité dans la littérature et dans le cinéma. La campagne a quelque chose d'un peu sale, mystérieux, lointain, presque criminel, en fait. Et aujourd'hui, elle est mise en lumière parce qu'on sait qu'il s'y passe quelque chose de notre avenir là-bas.
Et les écrivains que vous aimiez, que vous aimez encore aujourd'hui, sont plutôt des écrivains de la campagne ou... Là, vous en avez cité deux, mais est-ce que vos modèles, on a l'impression que vos modèles sont peut-être plus modernes quand on vous lit ?
Oui, oui, non. Alors, moi, par exemple, le roman de Jean-Baptiste Delamo, c'est un écrivain que j'apprécie beaucoup, que j'admire. Il y a beaucoup de gens de ma génération que je suis. Donc, mes modèles, non, mes modèles, c'est les classiques. C'est on va chez Balzac, on va chez Pierre Herbart, on va chez des choses comme ça. Mais
Balzac, il est à la fois la campagne et la
ville. Il est un peu... Notamment dans Les Illusions Perdues. Alors, oui, c'est la ville, mais effectivement. Bien sûr.
Il y a une circulation chez Balzac.
Il y a une circulation continuellement. Ouais. Et c'était d'ailleurs cette circulation qui m'intéressait. Finalement, plutôt que mon roman parle de la ville et de la campagne.
De la même façon, votre roman parle des deux.
Exactement. Et du mouvement entre les sphères, en fait.
On va peut-être quand même commencer à parler de l'intrigue de votre roman. Je vois le temps qui tourne. Donc, c'est l'histoire de deux frères, deux agriculteurs, finalement. Il y a un conflit entre les deux. Au début, on ne sait pas très bien pourquoi. Et le conflit va se cristalliser un petit peu sur les deux façons de faire de l'agriculture. Il y en a un qui serait un peu un héritier d'une agriculture intensive qui se pose pas trop de questions.
Oui. Qui se pose des questions pour faire conventionnelle.
Toujours plus. Ouais, ouais. Et puis il y en a un autre qui décide un peu par hasard finalement de passer à la permaculture.
Exactement. En fait, c'est une famille de bouchers plus précisément à l'origine. Et effectivement, ces deux frères, donc l'aîné qui s'appelle Romain, qui lui reprend l'affaire familiale et la développe. Il a fait une école de commerce, donc il travaille beaucoup sur le marketing et finalement il développe une affaire qui avait été laissée assez florissante par son père. Et alors au début du roman, Camille vient travailler avec lui, mais comme boucher, lui il est dans la boutique, il aime ça et machin. Et en fait, il se trouve que le Antoine, qui est le frère entre les deux, se suicide et qui
il s'est suicidé longtemps avant.
Oui, oui, c'est ça. Mais sauf que ça provoque chez Camille un vrai traumatisme et il décide de quitter sa famille, de se fâcher, puisqu'il reproche un peu à son frère aîné d'avoir été
responsable
indirectement. Donc il s'en va, il part et il quitte sa famille et il rejoint sa petite amie qui vit à Nantes, qui est en études d'histoire. Et là, en fait, il est atteint du syndrome de Broca. Donc il est complètement aphasique, il ne fait rien.
Le syndrome de
Broca, B-R-O-C-A.
Merci.
Voilà.
Les éditeurs qui ne font pas médecine apprécieront. Les ceux qui font médecine diront oui, on savait.
On savait, on connaissait. L'endroit où il vit, exactement, et il découvre le jardin à l'abandon de la propriété dans laquelle il vit, puisqu'il vit dans une dépendance. Et ça commence à le fasciner, voilà. Et il ne comprend pas ce jardin, il commence à le défricher, et puis fait irruption une dame, Anne-Marie, qui est la propriétaire, et qui lui dit mais. Laissez le jardin tranquille, vous n'y connaissez rien, et machin, tout ça. Et en fait, il s'avère que cette dame est une des pionnières de la permaculture. C'est une dame qui a été formée à l'école d'agronomie et tout ça, et qui a quitté, elle, l'industrie agroalimentaire pour faire un tour du monde ethno-agricole, on va dire, et qui est revenue et qui avait créé une sorte de jardin modèle dans sa propriété, et qui l'a ensuite abandonné. Et c'est ça que Camille voit, découvre, et elle va le former, l'initier à la permaculture.
Elle a des très jolies pages sur la thérapie par le jardinage dans votre livre. Non, mais je ne plaisante pas du tout en lisant. Il y a des très belles pages sur le sujet. Là, on était à la campagne, on va aller à la ville, mais entre-temps, on va écouter de la musique.
I'm
Et voilà, il fallait quand même que les petites clochettes aillent jusqu'au bout. C'était Tears for Fears, Mad World.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Paul-Henri Bison, nous sommes toujours avec vous pour votre premier roman, La Louve, paru aux éditions Gallimard fin août, c'est ça hein?
31,
exactement. Enfin, ils n'ont pas voulu mettre en septembre, ils vous ont mis en août. On va revenir jusqu'à ce qu'on disait jusqu'avant. Vous pensez vraiment qu'on peut se révéler pas donc comme votre personnage qui trouve une sorte de rédemption, enfin de rédemption, c'est pas le mot, mais de guérison par le jardinage. Vous croyez vraiment que le jardinage peut avoir un effet révélateur?
Ben, en tout cas, dans le cas de Camille, en fait, ça lui permet de sortir de lui. Tout simplement, en fait, c'est-à-dire que le jardin dont il va prendre soin et qui va renaître, et c'est comme si sa psychologie était à l'extérieur. Et c'est ce qui lui permet d'avancer lui-même, quoi.
On sait aussi que le jardinage, c'est bon pour soigner la dépression. Je ne sais pas si vous êtes
au courant. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est précisément pour cette raison-là, mais en tout cas, chez Camille, c'est comme ça. Ça lui permet en fait de sortir de sa boîte, parce que c'est quelqu'un de très entier, très idéaliste. Donc, et en fait, sans s'en rendre compte, involontairement, il sort de lui-même.
Il est à la fois, comme vous, il est très idéaliste, et vous l'écrivez plutôt, du coup, aussi très égoïste. C'est pas du tout un idéaliste forcément très bon.
Non, exactement.
Il a un côté très...
Camille n'est pas forcément un personnage positif. En fait, et c'est ce que dit Anne-Marie à propos de lui, c'est qu'il a beaucoup d'énergie, il a cet idéalisme, mais effectivement, ça se transforme en égoïsme.
À une époque, on a tendance parfois à penser que l'idéaliste a toujours raison. Là, on peut se dire qu'il
non,
a...
Absolument. Non, en fait, les personnages les plus intéressants, les plus complets, ce sont les personnages de femmes.
Anne-Marie et sa femme.
Ouais, Anne-Marie, femme. Victoire et Maxime, exactement. En fait, les hommes sont assez peu intéressants.
C'est ce que vous pensez en général.
C'est presque ce que je pense en général.
c'est le propre du romancier de dire presque ce qu'il pense. Votre premier roman, donc on a déjà dit, parle d'agriculture, parle de deux frères. Mais Hitchcock disait qu'un bon méchant, c'est ce qui fait l'ingrédient indispensable d'un film réussi. J'ai même été recherché pour trouver la citation exacte. Donc c'est l'ingrédient indispensable d'un film réussi. Alors vous avez bien soigné votre méchant.
Oui, je voulais qu'il soit...
Début, on le déteste. Quoi.
Exactement, je voulais que dès la première
Camille,
page...
C'est quelqu'un d'autre.
Exactement, c'est un personnage qui s'appelle Sarkis. Voilà.
Qui fait un peu penser à Rastapopoulos dans Tintin.
Ah oui, c'est vrai. Moi, je me suis inspiré, par exemple, de personnages comme Batala dans Le Crime de Monsieur Lange, de Renoir, ou presque le personnage de Sakaar dans L'Argent, mais l'adaptation qu'en avait fait Marcel Lherbier. Voilà. Alors que Sarkis, c'est un personnage... Ah oui, dès la première page, je voulais qu'il apparaisse comme vraiment caricaturalement méchant. Je voulais que...
Et
que...
Alors, expliquez-nous qui il est quand même un petit peu.
Alors, Sarkis...
C'est une autre figure de notre modernité. On a la modernité agricole et puis là, il y a le financier.
Le financier, exactement. Sarkis arrive...
C'est insultant pour les financiers de le décrire comme un financier, je crois.
C'est un financier véreux. Voilà. Sarkis, au début du roman, il arrive de Pologne où il a été en exil pendant 15 ans parce qu'on lui avait demandé de... Il avait préféré quitter le territoire puisqu'il était sous les radars du fisc et voilà. Et il revient 15 ans après avoir fait des affaires en Europe de l'Est. Et en fait, il veut conquérir Paris. Donc c'est un Rastignac véreux et il arrive. Sarkis, c'est un personnage qui suit entre guillemets la route du pétrole parce qu'il est originaire d'Azerbaïdjan et il arrive par l'est et voilà. Et donc
c'est un personnage qui est tout à, pour employer un mot qu'on entend souvent, qui est tout à son hubris. Alors lui,
il ne pense qu'à ça. Exactement, il ne pense qu'à ça.
L'hubris, la toute puissance quoi. Il rêve d'être tout puissant, d'avoir le monde à ses pieds, les femmes, les...
Exactement, la sexualité violente, l'emprise sur les hommes et machin. Et
il pourrait être producteur Hollywood quasiment. Hein.
Exactement, je pense. C'est la coïncidence, mais en effet. On m'a dit qu'il était d'ailleurs un peu caricatural, mais finalement, la réalité l'est tout autant. Et Sarkis, c'est vrai que ce qui est très étonnant chez Sarkis, c'est qu'il est complètement caricatural. On le voit arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, et finalement, il va quand même réussir à entourlouper tout le monde. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé. C'est pour ça que je parle de Batala dans Le Crime de Monsieur Lange, ou dans Sakaar, c'est que ce sont des gens qui sont capables d'embarquer avec eux des dizaines, des centaines de personnes, alors qu'il est évident que ces types sont des voyous.
Mais vous êtes jeune, vous êtes moderne, un jeune homme moderne, comme disait l'autre, et vous ne me sortez que des références de films qui datent des années 50, et c'est une passion?
Non, c'est parce que je pense que ce sont des figures qui sont constantes, en fait. Là, c'est effectivement des...
Mais j'ai d'ailleurs de très bons films. En tout cas, le film de Monsieur Lange, oui. L'autre, je ne le connais pas. Mais...
Oui, oui, oui. Marcel Larbier, c'est assez génial parce que c'est un film expressionniste. C'est quasiment le seul film expressionniste français. Et il y a tout un rapport à la mécanique, à la machinerie. Et il y a cette hypnose par l'envoûtement que génère le personnage et tout ça. On est dans les années des arts déco, de la course au progrès et tout ça. C'est assez fascinant. Voilà.
Un seul indice annonce la couleur sur le trottoir, une touffe de mélisse. C'est par cette porte que les visiteurs accèdent au jardin bio de Gilbert et Josine Cardon.
Ici, c'est un des abris donc, qui est le lieu où peuvent se nicher les bourdons, les perce-oreilles, les musaraignes.
Le paradis vert qu'entretient Gilbert Cardon depuis 30 ans contient plus de 2000 arbres différents et environ 2500 autres variétés de plantes. Tout ça s'entremêle sur 1800 mètres carrés.
On fait un travail pour obtenir des légumes entre les lignes d'arbres. Voilà. On ouvre un espace au printemps parce que avant qu'on ait mis des légumes, il y avait déjà des plantes sauvages que l'on pouvait manger. Il n'y a pas de légumes en rang d'oignons. Hein, en compagnie militaire, ils sont tous avec des, ils s'accoquinent avec d'autres, voilà.
Et ils s'en portent mieux comme ça ?
Et ils s'en portent mieux puisque les insectes ne trouvent pas leur chemin. Les insectes fonctionnent à l'odeur et à la couleur, et donc étant donné la proximité d'une autre plante, la plante que l'insecte va attaquer n'est pas reconnue, et donc il passe son chemin, il va chercher ailleurs.
On laisse la nature faire son travail, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment, quand il y a des pucerons sur quelque chose, sur un chou, il y a suffisamment de coccinelles pour attaquer les pucerons. Et on élève même les coccinelles d'une certaine manière, puisqu'on fait pousser des fèves où les coccinelles viennent faire leur nurserie, en fait.
Alors, vous ne les connaissez sûrement pas, Paul-Henri Bison, je sais bien que ce n'était pas le bon nom, mais c'est un extrait de la télévision belge, ça se passe à Mouscron, chez Gilbert et Jocelyne Cardon, qui cultivent le jardin des fraternités ouvrières en permaculture. Donc, ils pourraient connaître votre héros, et ça vous, quand vous les entendez, c'est des gens qui vous inspirent?
Bah c'est charmant, oui. Il y a quelque chose de quotidien, on sent, de connexion au vivant, il y a quelque chose, voilà, il y a un rapport qui est... Elle parle de, au moins c'est pas en randonnion, c'est pas militaire. Voilà, il y a un naturel là qui est très plaisant à entendre.
Qu'est-ce qui vous a intéressé vous dans la permaculture ?
Ce qui m'intéresse dans la permaculture, c'est pas tant la permaculture en soi, c'était que au centre du roman le sol, la terre, soit presque un personnage en fait. Parce que basiquement il y a c'est Xavier Marchand d'ailleurs qui est un des penseurs de la permaculture qui l'explique très bien. Il dit il y a deux types d'agriculture. Qu'est-ce que c'est l'agriculture ? C'est de fabriquer de la calorie. Pour ça, on utilise des énergies fossiles et finalement on détruit le sol. Longtemps on a pensé que à l'agriculture conventionnelle, l'agriculture bio était une alternative, une réponse. Mais finalement c'est la même chose, en mieux parce qu'on met moins de trucs. La permaculture, c'est complètement autre chose. C'est de faire en sorte que le sol, c'est-à-dire ce moyen de production et de produire, non seulement soit protégé, mais en plus se régénère. C'est-à-dire que, en en prenant soin, il va continuer d'être de mieux en mieux. Voilà. Et donc ça, c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose qui s'appauvrissait, mais au contraire, comme un personnage qui grandit, enfin qui s'améliore, qui grandit et qui va s'améliorer. Et la ferme de Camille, qui est la ville aux voix, génère ça. C'est ce que j'essaye de décrire.
Vous décrivez aussi tout le snobisme qu'il y a autour de ce monde-là, tout ce monde du bien manger. Parfois, on emploie un mot anglais pour en parler. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est ce que vous, est-ce que non, et surtout, est-ce que vous pensez qu'on peut y échapper à ce snobisme quand on est parisien?
Oui, j'imagine, ouais, bien sûr. Et puis en plus, ce snobisme-là est pas forcément mauvais. C'est-à-dire que à l'origine, il y a quand même une conscience que il faut manger avec les saisons, que les produits sont bons, et ce machin. Sauf que on voit très bien, il y a des enjeux financiers qui sont énormes. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on réhabilite une ville aujourd'hui? C'est des quartiers qui sont un peu en friche. On va envoyer des restaurants, ça fait venir les gens et ainsi de suite. Donc derrière la gastronomie aujourd'hui à Paris, il y a des investissements colossaux.
Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans la
d'argent, food. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de fonds financiers qui sont derrière la restauration.
Je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, je vais raconter ma vie à ce micro. Ce matin, il se trouve que je me promenais dans le 9e arrondissement, dans une rue que j'étais pas allé depuis très longtemps, la rue du Faubourg Poissonnière. C'est impressionnant.
Ben oui, on voit un quartier se modifier en 2 ans.
En 2 ans même.
Ça va très très vite, exactement.
Et on a des enseignes qui sont toutes très dans le bien-manger.
Oui,
ça vous expliquer ça comment juste parce qu'il y a beaucoup d'argent?
Juste parce que Paris, si on prend une ville comme Londres par exemple, il faut quasiment 3 ou 4 fois plus d'argent pour ouvrir un restaurant qu'à Paris. Donc Paris a encore un foncier qui est accessible et qui prend beaucoup de valeur. Et donc pour des chefs étrangers, il y a beaucoup de chefs étrangers qui viennent et ainsi de suite. Et puis il y a un public. À Paris, on aime la bouffe, on aime sortir, donc ça correspond. Et en plus, ça correspond aussi à l'envie de l'époque, de manger mieux, de prendre soin de soi. Donc tout fonctionne ensemble, voilà. Sauf que au bout du bout, l'intérêt, il n'est pas forcément pour les agriculteurs, il est plutôt pour justement des fonds financiers.
C'est là où on revient à votre livre, hein, parce que finalement, je m'aperçois qu'on n'a pas fait lien. On a parlé de la campagne, on a parlé de la ville, mais on n'a pas dit qu'il y avait le lien entre les deux. Alors comment alors moi, je refuse de l'appeler financier,
cet escroc
s'en prendre à ses deux frères qui règlent leur
Sarkis, quand il revient à Paris, il recommence à faire des affaires tranquillement, comme ça. Et puis, en fait, une de ses maîtresses lui dit, mais tu sais, ce qui marche bien à Paris aujourd'hui, c'est la bouffe, il y a de l'argent à faire. Donc, évidemment, ça fait tilt. Et lui, il se dit quoi? Il se dit, il y a deux choses. En gros, il y a l'art contemporain, la bouffe, et je vais faire un truc ensemble. Il se trouve que, par une de ses connaissances, il met la main sur un endroit extraordinaire au centre de Paris, près des Halles.
Et qu'on rêve tous d'aller voir quand on a lu votre livre.
Exactement, mais il faut y aller. Il faut essayer de le trouver. Et il se dit, voilà, je vais créer le PAO, le Pavillon des Horizons, et qui est un grand centre culturel qui va m'attirer du monde. Et puis, je vais faire des restaurants à l'intérieur parce qu'il va falloir que ça tourne et que ça rapporte de l'argent. Et pour alimenter ces restaurants, je vais me mettre dans le goût de l'époque, c'est-à-dire que je vais faire venir ce qu'il y a de mieux et les meilleurs paysans. Voilà. Et donc là, il réfléchit, et voilà, il pense à l'agroforesterie, à la permaculture. Et forcément, le groupement qu'il y a autour de Camille, puisque Camille, pendant ce temps-là, a créé une coopérative qui s'appelle La Louve, d'où le titre du roman, eux cherchent des débouchés et de la distribution. Et donc, la rencontre entre les deux est inévitable. Et donc, c'est la rencontre de l'idéalisme et de l'imposture. Et c'est ce qui va donner, c'est ce qui fait basculer le roman presque dans un thriller.
Et vous croyez que que la ville trahit toujours la campagne? Ou c'est juste là parce que c'est cette histoire-là que vous racontez?
Je pense que c'est presque
l'escroc pourrait être à la
presque,
campagne.
C'est presque sans le vouloir. C'est simplement qu'il y a presque un dédain de fait de la ville vis-à-vis de la campagne. Ça a toujours été ça, c'est culturel.
Vous êtes très dans ce livre. Vous êtes aussi très ironique sur le monde parisien, sur ce qu'on vient de dire, sur cette culture de la cuisine. Il y a un moment où vous vous dites en gros, les Parisiens sont devenus, ils n'ont plus d'argent, mais pour se faire croire qu'ils en ont, ils vont manger dans un bon restaurant où ils dépensent 100 euros pour un repas. Vous êtes pas tendre avec vos personnages et avec votre époque.
Oui, je suis pas tendre avec moi non plus parce que c'est ma génération et j'en fais partie. Donc je m'amuse moi-même de mes travers. C'est une position un peu de moraliste, mais c'est ce qui m'intéresse. Et
c'est quoi? C'est de décrire le monde?
D'essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, comment ils vivent, pourquoi ils vivent, dans quelle direction ils vont, en ont-ils conscience, je sais pas. En tout cas, je fais partie de cette foule-là. Et c'est vrai que
est-ce qu'au fond, ce que vous dites, c'est finalement que les Parisiens, ils aiment bien la permaculture, mais ils s'en foutent un peu, quoi, du vent qu'ils mangent?
Oui, ils s'en foutent un peu, absolument. Bien sûr, parce que tous mes potes, on va au restaurant, ils voudraient vivre à la campagne pour rien au monde. Donc la question est réglée. Eux, ce qu'ils veulent, c'est bien manger. Uh-huh. Et s'ils mangent bien et sain et qu'ils sont ravis, mais ils veulent pas retourner vivre.
Et vous voulez pas être cuisinier? Vous voulez pas ouvrir
Non, je suis un assez piètre cuisinier, donc non.
Ça vous intéresse pas?
Je vous épargne. Non, sans plus. Et puis ce sont des métiers durs quand même. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les chefs et les cuisiniers. C'est quand même très. C'est des métiers d'abord assez créatifs et puis physiquement très très compliqués. Ouais.
Vous avez été faire récemment une tournée, comme maintenant tous les écrivains. Quand vous sortez un livre, vous allez dans les librairies. Alors quand vous allez dans les régions, comme on dit, on vous reçoit comment? On reçoit la carabine, avec bienveillance, on se dit oh là là.
Non, avec bienveillance, mais je pense que moi je suis allé là dans le patelin où j'ai grandi, quoi, Saint-Laurent-sur-Sèvre, et
ils n'ont pas été choqués.
Non, ça, au contraire, ça les interroge en fait, parce que finalement il y a une grande inconscience des gens dans les campagnes. C'est-à-dire
vous pensez qu'on est vraiment dans deux mondes séparés, enfin en tout cas parallèles?
Ouais, complètement. Complètement, parce qu'il y a, les paysans qui sont conventionnels, ils commencent un petit peu à prendre conscience du cercle vicieux dans lequel ils sont entraînés. On le voit d'ailleurs, des crises successives, machin, tout ça, mais individuellement, ils n'ont pas les solutions forcément pour en sortir. On ne les y incite pas. Donc c'est très compliqué.
Votre prochain roman sera aussi parlera d'agriculture, vous le savez déjà?
Non, je crois pas, parce que c'est pas vraiment ma spécialité, et ouais, d'autres en parlent beaucoup mieux que moi. Puis c'est vraiment pas un essai. Pour moi, c'était c'est de faire du sol un personnage. Donc je me suis documenté en fonction du sujet, mais non.
Le prochain, il est prêt? Il est déjà écrit?
Le prochain est en cours. C'est assez long, mais il commence à se mettre en place.
Ça veut dire que vous commencez à l'écrire?
J'ai commencé un petit peu à l'écrire, oui. D'abord, c'est beaucoup de notes, et voilà, et là, je commence à me documenter.
Donc, ouais. ça sera sur un autre sujet.
Ce sera sur un autre sujet dont je peux pas parler parce que il peut, à ce stade-là, il peut encore m'échapper et j'ai aucune certitude quant à...
En tout cas, le premier vous a donné envie de continuer absolument?
Oui, parce que je suis primo-romancier, même si j'ai l'âge que j'ai, mais.
Qui ne se voit pas.
Et donc, j'ai à apprendre encore sur ce genre. Voilà. Et au début, j'y faisais pas attention, j'ai fait ça avec beaucoup d'inconscience, mais j'ai des choses à apprendre.
Voilà, vous venez d'écouter La Relève, une émission proposée et présentée par Christophe, avec à la réalisation celui qu'on n'appelle pas la Louve, mais le loup, Louis-Julien. Merci encore à Paul-Henri Bison, dont le titre du livre est justement La Louve, paru chez Gallimard. Vous pourrez bientôt nous retrouver sur Internet, puisqu'un jour on les mettra en ligne, ces foutues émissions. Merci de nous avoir écoutés à dans 335 heures. D'ici là, restez à l'écoute du programme musical de Radio Campus Paris. Et n'oubliez pas, ce soir à 19h, c'est la matinale.